Bonjour à tous, je vais introduire la conversation. Nous sommes une partie de la fonderie typographique Velvetim, dite VTF. On est une fonderie typographique, ça veut dire qu'on distribue des caractères typographiques, c'est-à-dire en gros la manière dont sont dessinées les lettres que vous tapez sur vos ordinateurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc nous on distribue des caractères typographiques. Sur internet, sur un site internet qui s'appelle www.vepetim.fr. Nous sommes, ça c'est notre nom, Velvetim Type. Nous sommes en résidence permanente à la Générale, donc un bureau qui nous accueille et qui est un peu notre base arrière de travail et de distribution. Logistique de goodies qui sont derrière nous et que vous pourrez voir après la conférence. Et aujourd'hui, on se réunit parce que on sort un nouveau caractère dessiné par Adèle Faure qui va vous le présenter tout à l'heure. Mais on va faire un bref récap de qui est Velvetim, ce qu'on fait, ce que c'est que la typo libre, où on va, etc. etc. La fonderie, elle est née en 2010. La typographie était, le paysage typographique était un peu particulier. Il était dominé par des grosses fonderies, donc des grosses compagnies qui distribuaient leurs typos. On connaît tous leurs noms. La scène indépendante était très rare. Il y avait quelques fonderies indépendantes qui existaient. C'était essentiellement des caractères de labeur, avec quelques exceptions. Ici, vous avez une liste du premier renouveau de la typo française. Typo fonderie, c'est la fonderie de Jean-François Porchette. Elle arrive. Début des années 2000, je dirais, à vue de nez. Typotech, qui était la fonderie de trafic, qui arrive quelques temps après, et puis toute une série de fonderies indépendantes qui se développent. Mais c'est pas encore de la typo libre, et puis c'est de la typo qui est distribuée dans une recherche d'efficacité typographique. Je fais ça à grands traits parce qu'il y a plein d'exceptions. Quand Velvetim arrive et créé, il y a un paysage typographique français qui est en train de se dessiner dans une scène mondiale qui est très ponctuelle. Il y a quelques petits points qui brillent un peu partout. On ne sait pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Quelques exemples de ce qu'on peut voir en typo distribué librement à l'époque. Si vous avez un computer moderne, votre corne. Ce sont des typos que vous avez déjà vus. Et quand Velvetim arrive, Velvetim propose deux choses particulières qui sont des dessins de caractère. Là, il y a marqué atypique, mais c'est assez sympa de dire atypique, mais c'est du caractère un peu viscéral et envoyé dans un geste. Fonctionnel, on va dire, et des licences atypiques, à savoir des licences libres, on en reparlera après. À ma connaissance, il y avait une seule fonderie qui distribuait des typographies sous licence libre à l'époque, c'était The League of Movable Type, qui est une fonderie américaine qui existe encore. La licence libre, Arrête, vous voulez en parler ?
Ouais, alors ça, c'est un poster qui a été fait par l'un de nos membres qui est Jérémy Land, qu'on a tiré pour faire des goodies. Je ne sais plus s'il existe. Voilà, il existe. Et on a eu ce problème qui était qu'il fallait qu'on communique à des gens qui venaient visiter nos stands, parce qu'on a eu des stands, assez rapidement, qu'est-ce que c'était le livre, et plus précisément, qu'est-ce que c'était le livre dans un contexte de typographie, de dessin typographique. Et en gros, il y a trois règles qui s'appliquent aussi pour du logiciel libre. C'est la règle 0 de la liberté d'usage, la règle 1 la liberté d'étude et de modification. La règle 2 de redistribution, encore une fois, soit du programme, soit en l'occurrence de la fonte. Et la règle 3 de redistribution des modifications. Et éventuellement dans un contexte commercial aussi, c'est envisageable. Donc en gros, ce qu'on dit aux gens quand on a quelques secondes pour leur dire ce que c'est qu'un typo libre, c'est ce sont des fontes pour écrire des textes qui ont des styles qui vous plaisent plus ou moins. Et ces fontes-là, vous serez libre de les utiliser, de les étudier et de les redistribuer, et surtout de les modifier, si vous souhaitez. Franck est à l'initiative de Red Latin Type Foundry, donc c'est lui qui a fondé ce projet-là, d'abord seul, hein, si je ne dis pas de bêtises, en 2010. Ça, c'est le travail de Franck. Donc c'est, comme le disait Julien, c'est dans un contexte de dessin assez expressif, je pense c'est important de le dire, dans une économie de temps qui n'a rien à voir avec les fonderies commerciales. Franck, je pense qu'il écrit, enfin il me dira hein, si je dis des bêtises, mais je pense qu'il écrivait comme il dessinait des fontes, c'est-à-dire qu'il avait vraiment une idée. Il a décliné sous forme d'alphabet et passé à l'idée suivante, le tout avec une expressivité complètement singulière, quoi, dans un contexte qui... Enfin, c'était des formes qu'on voyait pas par ailleurs. Donc, une approche très poétique, en fait, du dessin de caractère. Velvetin, on essaye aujourd'hui, 10 ans, 12 ans après, de garder ça, en fait. Voilà. Ensuite, le temps a passé. Donc là, grâce à ce superbe schéma que je découvre comme vous, en 2011, Franck s'entoure de Jérémy Land et Sébastien Hayez. Et puis après, il y a eu des vagues de nouveaux et nouvelles membres du collectif. Et ces membres se sont intégrés au collectif soit par intérêt d'affect par rapport au collectif, soit parce que ce sont des personnes qui ont publié des fontes qui ont fait partie d'un contexte de publication de fontes, typiquement un workshop. Ces années-là, à partir de 2011, on a fait beaucoup de workshops. Les workshops de Velvetin, c'est pas seulement faire des fontes, faire une fonte à plusieurs mains, c'est très compliqué. C'est généralement réfléchir à ce que c'est que le signe et essayer de trouver des méthodes pour faire des signes en commun, pour résumer. Hein. Voilà. Et puis ensuite, c'est quoi ?
À partir de là, aujourd'hui, on a 64 designereuses publiées, dessinatrices ou dessinateurs de caractère. Les caractères qui étaient publiés par Velvetin, ils étaient publiés par les membres du collectif. Et puis on a décidé à un moment donné de s'ouvrir, parce qu'il y avait un entre-soi qui était sympathique, on a ressenti le besoin de s'ouvrir, plus de diversité, plus de femmes. Au début c'était un peu le boys club. À un moment donné, ça ne va pas. De s'ouvrir à d'autres alphabets. À partir de 2018, il y a une grosse accélération, puisque entre 2018 et 2023, il y a eu 44 designeuses ou designers en plus qui ont été publiés. Donc il y a une grosse accélération à ce moment-là.
Sachant que c'est valable et pour l'initiative, enfin lors des fontes, et en même temps à la fois genre les forks, l'ajout de certains alphabets, etc. À chaque petite de caractère.
Ce qui a vraiment fait démarrer Velvetin en tant que collectif tel qu'il est aujourd'hui, c'est quelque chose de très pratique, c'est quand on a commencé à faire des workshops. C'est-à-dire à se réunir et à réunir des gens pour travailler ensemble sur des marathons typographiques qui duraient en général un week-end.
Et qui était le plus souvent la générale.
Qui était à la générale. Comme celui-ci, par exemple, qui a été organisé par le bureau des étudiants des Arts Déco dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Résistance. Et donc ça, c'est un workshop qu'on a mené, mais que les étudiants ont mené en même temps que la médecine a mené le workshop. Donc c'était le workshop Résistance. Et donc ça, c'est une typo qui a été dessinée en un week-end. Et dessiner, ça veut dire aussi conceptualiser. C'est-à-dire que quand les étudiants sont arrivés, d'ailleurs, je me demande si je ne reconnais pas une ou deux personnes qui sont passées à l'exposition, quand les étudiants sont arrivés, ils avaient le nom du workshop, et puis il a fallu traduire le nom en concept, et puis ce concept en dessin typographique, qui est aujourd'hui ce caractère, donc que vous pouvez télécharger sur le site, et qui est libre. Vous l'utiliser, le modifier, si les pays qui font des censures, des gros blocs de censure ne vous plaisent pas, vous pouvez ouvrir un logiciel de typo, les modifier, faire votre propre caractère.
Alors du coup, ça, c'est un workshop qui a suivi la publication du caractère pique-nique, qui est un caractère assez, dans ses formes assez organiques et qui vient d'un contexte assez poétique. Et du coup, le workshop qui a mené à la suite de ce caractère a été guidé par cette question quels seraient les pictogrammes dont on aurait besoin pour faire un pique-nique? Est-ce qu'on y va en vélo? Est-ce qu'on a besoin de musique? Qu'est-ce qu'on a envie d'y trouver, de boire, de manger? Et du coup, ça a été mené à Bruxelles, à l'allée du Caille, qui est un tiers-lieu au nord de Bruxelles, avec trois pâtes, donc une pâte sablée, une pâte à crêpes et une pâte à frire, pour à chaque fois que le symbole soit modifié par la cuisson de la pâte et que potentiellement il devienne illisible, mais toujours avec l'intention qui a été dessinée, des gestes différents aussi à chaque pâte. Donc voilà le résultat cuit. Voilà, c'est juste la partie sablée. Et on a scanné toutes les pâtes, les pâtes à crêpes. Voilà.
Le workshop, c'était à l'occasion d'un lancement de typo, comme ce soir, qui était le lancement de la typo pique-nique, ouais, que tu as dessiné.
Okay.
Tu peux raconter l'histoire derrière, parce qu'il y a un truc quand même avec ce caractère, il y a une histoire. Quoi.
Alors, l'origine du caractère, ça a été un lettrage qui a été fait pour aller avec des poèmes de Francis Ponge. Qui parlait de l'herbe, de fleurs, d'éléments comme ça de nature, mais très très précis. Et du coup, après ce lettrage-là, s'en est suivi le dessin de ce caractère. Et pour ce spécimen que vous voyez là, j'ai travaillé avec No Fonderie, qui est une fonderie en Allemagne, à Karlsruhe, dans une école à Karlsruhe. Et du coup, ça. Tout le processus des dessins un peu que vous voyez, des mots-images que vous voyez, a été mené en groupe par interface sur Miro. Et les textes ont été écrits par deux amis qui du coup, définissent aussi d'une manière et d'une autre leur image du pique-nique. Et je suis retournée aussi à Karlsruhe pour imprimer ce spécimen-là avec les gens de No Fonderie en sérigraphie sur des nappes d'occasion. Voilà.
Que vous retrouverez dans le.
Dans le boutique si présent. Et du coup, suite à ce détail aussi de travailler à distance, on trouve des solutions. Par exemple, là, concevoir un spécimen en groupe, ça a pu se faire par Miro. Le fonctionnement de Velvetin est aussi essentiellement en ligne. Donc nous avons le chat dans lequel nous parlons quotidiennement de choses et d'autres, de typographie et d'autres sujets. Et du coup, il y a plusieurs chats qui se séparent en fonction de qui veut faire quoi et des affinités et des sujets différents. Peut-être qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus.
On travaille beaucoup sur Telegram, donc là, c'est le l'exemple de chat que vous voyez. La première image, par exemple, c'est quand on a lancé
Outward.
On devait faire des posters. Donc, on s'envoie nos posters et puis on les commente. En dessous, on voit un petit message d'Ariel qui explique qu'il est en train d'écrire un article et qui demande au collectif si on pense qu'on pourrait le publier. À droite, vous voyez.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est
le caractère de Lucas, je crois, qui a dessiné.
Voilà. Donc on se demande beaucoup nos avis les uns aux autres, et puis on commente, quoi. On commente, on compare. C'est un vrai investissement parce que selon les membres, je pense que ça représente entre plusieurs minutes et plusieurs heures d'attention par jour.
C'est pas vrai, c'est quelque chose de très sérieux.
Et puis on a un fonctionnement aussi qui est assez horizontal et qui est... qui n'est pas très démocratique, c'est-à-dire que c'est en gros, c'est celui qui fait un truc qui a raison, quoi. Donc c'est un fonctionnement qui favorise aussi l'envie et puis les prises d'initiative.
On peut peut-être passer.
Ouais,
Alors juste très rapidement, c'est une fonte Pixel qui a été sortie vers 2015. Que j'ai initié, qui a été reforqué par Jérémy, un autre membre donc, qui était à l'époque aussi membre de l'équipe. On avait déjà à l'époque cette envie de cultiver la notion de fork. Donc fork, pour celles et ceux qui ne se connaissent pas, c'est le principe de dérivation logicielle. Donc prendre un logiciel, le copier, le modifier. Donc avoir deux branches ou plusieurs branches qui coexistent en même temps. En termes typographiques, c'est très intéressant parce que ça devient très graphique très rapidement. Ce qui permet d'enrichir aussi les projets. Sorting Grotesque, une fonte de Lucas Lebian qui a été un hit. C'est un hit qu'on aime beaucoup parce que ça a été un hit, mais en même temps c'est une fonte qui nous a beaucoup mis dans une situation de questionnement, puisque elle a tellement bien marché que ça nous a un peu perturbé. On voulait pas faire une fonte commerciale et je pense qu'on l'a fait.
Mais on l'a fait en toute connaissance sans The Cause.
Oui,
on a choisi d'y aller. Quoi.
Ouais. Ça, c'est les stades du site, de visite du site, je crois. Ouais. Est-ce intéressant? Je ne sais pas.
Parce que c'est aussi le moment où c'est devenu international.
Ouais. Ah oui.
Et à ce moment, je crois que c'est cette fonte-là qui a vraiment fait que c'est devenu.
Sans doute, ouais. Oui, là, donc elle est mort.
Et puis, donc, il y a une première dérivation typographique qui a été faite avec l'apparition du grec, qui a été donc, le sporting grotesque qui a été forqué par Georges Liane Lacoste. Voilà, ça a été notre premier caractère non latin.
Donc dans ce cas-là, je ne sais pas si pour ce cas-là, mais en général, des gens nous contactent pour savoir, pour nous demander si on accepterait d'inclure aux sources le grec ou l'arabe ou je ne sais pas, le cyrillique. Souvent, ça nous arrive assez souvent en fait.
Mais d'ailleurs, c'est même la majorité des forks. En fait, c'est assez rare qu'on ait des forks. Enfin, je me trompe, mais genre c'est assez rare qu'on ait des forks où ça reprend une monopolie de caractère et ça les déforme complètement, ou ça prend un autre axe. En général, justement, tous les forks qu'on reçoit, ça va toujours être pour ajouter un caractère, enfin pour ajouter un système alphabétique, ou alors pour éventuellement aussi ajouter des caractères qui sont inclusifs.
On a eu aussi parfois des caractères de commande, ce qui est le cas du pseudo Mirage. Donc ça, c'est le moment où Velvetine commence à prendre un peu de notoriété. Donc ça, c'est un caractère de commande qui a été fait pour un groupe qui s'appelle François The Atlas Mountain. Donc, il y a une, il commence à y avoir de la visibilité sur les caractères. Et puis de la visibilité aussi parce que certains caractères ont reçu des prix. Les deux caractères qui ont reçu le Tag Director Club, le Mur et le Litops, qui ont reçu le prix cette année. Et puis un certain nombre de publications sur des blogs, le magazine qui est là-bas, il a reçu le Director Club aussi.
Non, Typographica.
Typographica,
ouais.
Et puis il y a eu un moment où ces caractères sont arrivés dans la trousse à outils des graphistes. Au départ, on avait quelques graphistes militants qui nous soutenaient et qui utilisaient nos caractères contre vents et marées, et puis sûrement avec l'option approche optique de InDesign. Et puis petit à petit, il y a quelques. En dehors de ce cercle fermé, il y a des graphistes qui ont commencé à s'emparer de nos caractères, et puis au fur et à mesure, ils étaient aussi de mieux en mieux dessinés, de mieux en mieux calibrés. On a eu un gros succès aussi parmi les étudiants.
Dont la ville de Paris.
Alors, la ville de Paris, c'est un de ces graphistes militants qui travaillait en agence. Il me semble que l'agence a eu le budget et donc c'était un graphiste, un DA qui bossait là-bas, qui a soutenu la fonderie vraiment depuis le début. Et puis, il y a eu beaucoup d'étudiants qui se sont emparés de nos caractères, et puis avec un certain soutien d'une partie des équipes pédagogiques, parce que pour les étudiants, nos caractères sont fun, punk, tout ce que vous voulez. Et puis, du côté des équipes pédagogiques, on a une mise en valeur des auteurs, une licence, donc un cadre légal, donc des choses à raconter aussi sur une pratique de métier. Donc tout ça, ça fait une formule qui marche, quoi.
Ça, c'est la section e-news de notre site. C'est une section où on met, quand on a le temps, des exemples d'usage de nos fonds.
Et puis, on a des usages qui sont très populaires. Et sur le coup, on se dit waouh. Et puis parfois, quand on est un peu gêné. Ouais. Et donc ça, c'est un exemple. Au début, on s'est dit waouh, super, Marine Manson, pourquoi pas. Et puis après, on s'est aperçu que c'est une personne quand même assez problématique. Et ça nous a gênés.
C'est le genre de choses qui arrivent dans le chat, ces discussions-là.
Mais il y a plein de choses qui peuvent nous gêner. Ça peut être un problème de personne, ça peut être un problème de compagnie. Il y a des grandes boîtes qui utilisent nos typos. C'est pratique, c'est gratuit, ils peuvent faire du marketing avec, etc. Et puis ça peut poser problème. Donc nous, on se pose des questions par rapport à ça. On distribue nos caractères sous licence libre. Donc ça veut dire licence libre, c'est libre, c'est-à-dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais est-ce que nous, finalement, on est si content que ça quand tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Et c'est un vieux problème de la typographie, puisque à l'expo sur la typographie en Europe, il y a Gutenberg qui est en ce moment à la Bibliothèque nationale. On voit que Henri Estienne se pose une question, donc on est en 1569, et donc il a un cas de conscience avec ses caractères typographiques. Il dit « Si donc une troupe d'ignorants fait un mauvais usage de mes caractères, de mes papiers, de mes presses, et de tous les instruments de mon art, aura-t-on droit pour cela de m'appeler moi-même en jugement? Devrais-je être réputé complice de gens que je ne me cache pas de haïr, plus qu'on me hait le chien enragé et le serpent venimeux ?» C'est un vieux questionnement. On distribue des outils sous licence libre, mais tout le monde peut se servir de ces outils. Donc en ce moment, on est en plein questionnement sur ce qu'on doit faire de cette licence libre, la manière dont on doit distribuer nos caractères. Est-ce qu'on doit changer la licence, sortir du livre?
Tu peux te donner une petite virgule sur le sujet. Est-ce que en fait on pourrait envisager, enfin réellement, parce qu'il y aura la session de questions réponses, mais
et puis il y a la présentation d'Adèle parce qu'on est là pour ça.
D'ajouter un terme, une clause dans le contrat de licence de droit moral, pour dire je veux pas être associé à tel truc. Après il faut des avocats pour faire la loi.
Mais il y a plein de formes de licences qui existent, qui posent des contraintes, mais du coup ça sort du livre. Le livre par essence n'a pas de contraintes. Mais il y a des licences ACA par exemple qui définit pas pour des milieux carcérales ou policiers, pas dans une entreprise où le ratio salarial est plus de 1%, pas et plein d'autres critères qui sont celles d'une licence, on pourra en écrire plein d'autres avec des contraintes spécifiques, mais le fait qu'il y ait des contraintes, ça sort du livre.
Parce que seulement il y a le CopCycle, coopérative de transport en vélo,
c'est pas libre.
Sur les coopératives, et eux, ils imposent des conditions d'utilisation de leur licence.
De nous
enfin, je veux dire, bon, dans un temps libre, tu as des conditions, par exemple, de redonner sous la même licence et des choses comme ça, mais dès que tu vas restreindre l'utilisation, c'est plus libre de facto. Donc il y a plein de distributions qui vont plus inclure les fonds,
etc.
Non, mais c'est vraiment dans la définition, tu as le fait de pouvoir utiliser pour n'importe quel usage. Parce qu'après, si tu as deux licences qui ont des clauses qui sont en conflit, enfin, tu n'as plus rien qui marche. En fait.
Donc, par ailleurs,
par exemple, si tu as une licence anticapitaliste et une licence pro-capitaliste, tu ne peux plus combiner les logiciels. Et déjà, même les licences actuelles, c'est déjà très compliqué. Parce que tu as plein de licences différentes et des fois, tu ne peux pas combiner, donc ce n'est pas légal. Enfin, c'est déjà super chiant à la base.
Par ailleurs, ajouter des clauses, ça a ses propres limites, parce que qui aurait pensé il y a 10 ans qu'on allait devoir ajouter des clauses anti-NFT ou pour nourrir des AI, quoi. Et là, on en est là, c'est-à-dire quelle est notre clause morale la plus bas niveau pour qu'on puisse imaginer ce qui va se passer plus tard. Je pense qu'il faut qu'on continue. On pourra parler ensuite avec vous, avec plaisir, si vous avez des questions. En tout cas, on se retrouve pas souvent, donc là, pour nous, c'est un peu émouvant d'avoir le groupe presque au complet. Merci d'être témoin de ça. Et puis, sous l'initiative de Julien, qui donc est un membre de la Générale, sachant que la fonte de Adèle allait arriver, donc Adèle qui a dessiné cette fonte depuis maintenant presque plusieurs années, je dirais, mais qui a été d'accord pour la distribuer sur chez nous, en fait, on a décidé de faire un événement de release, de sortie, de publication, parce que c'est toujours intéressant de fédérer des gens dans un même espace pour sortir une fonte typographique. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, qu'on ne fait pas assez souvent. Donc on est super content d'avoir Adèle avec nous, qui a voyagé pour venir nous voir et qui va nous parler du JGS et de son folklore, donc le text-based art ou en français l'art basé, l'art en mode texte. Hein, c'est ça la traduction, art en mode texte. Voilà. Merci Adèle, qui se fait équiper d'un micro pour les personnes qui nous posent. Pas le voir, c'est des questions.
Moi j'ai une question rapide, légale. Par exemple, si on ne redistribue pas le code de la fonte.
Coucou, je parle. Je parle d'un
document où la fonte a été utilisée, du coup, il n'y a plus aucune contrainte.
On prend la question.
Par exemple, si tu prends une fonte pas libre de chez Microsoft, disons, et tu fais un document avec, par exemple une affiche. Tu redistribues le JPEG.
Ouais.
Donc tu inclus plus le code de la fonte. Est-ce que tu as le droit de faire ça sans respecter la licence?
Ça dépend de la licence. Tu as des licences qui t'autorisent à faire. Aujourd'hui, il y a énormément de licences typographiques. Chaque fonderie, chaque distributeur a globalement sa propre licence. Tu vas avoir des licences dites all inclusive.
Oui, tu peux faire des la question est plus si la licence continue à s'appliquer dans ce cas-là, est-ce que tu peux complètement ignorer le texte?
C'est un dessin, c'est une œuvre d'une personne, c'est un dessin que tu utilises, donc tu dois de toute manière rendre des comptes à un créateur ou une créatrice.
Ok, donc c'est un travail dérivé.
Tu as plein de licences qui t'interdisent par exemple de distribuer énormément de licences, qui t'interdisent de créer des alphabets jouets. Avec
ma question est plus, est-ce que c'est un travail dérivé ou pas? C'est pas ce qu'il y a dans la licence.
Si, je suis pas expert, mais je pense que la fonte a ça de spécifique, que c'est à la fois un programme et un dessin. Et du coup, quand tu la vois imprimée ou à l'écran, que tu n'as pas accès à son code source, tu l'utilises comme tu pourrais utiliser une photo qui a été prise par quelqu'un. Donc tu as de toute façon un droit d'auteur qui s'y applique. À ce moment-là, on n'est plus dans la question de... Enfin, oui, je pense qu'il faut que tu rendes compte à la personne qui crée en savant, en te demandant si oui ou non tu avais le droit de l'utiliser.
Okay. J'ai entendu dire que tu pouvais justement l'utiliser comme ça, mais la personne ne parlait pas de si c'est l'auteur.
Dans le cas d'une licence libre
Dans le cas de justement fonds sous licence pas libre.
À mon avis, tu auras des problèmes.
Après, je ne suis pas spécialiste là-dessus. C'est pour ça que je demande aussi pour avoir plusieurs avis.
Tu peux peut-être répondre.
Non, mais c'est assez compliqué. Je crois qu'on a eu des expériences de jugement, qui ont du mal à trouver en fait où est la limite de l'utilisation, etc. Je pense que, en tout cas, en France, on a un droit d'auteur. En tout cas, la licence, enfin la typographie rentre dans ces conditions-là. Et donc, si un auteur estime que ça va contre son droit, il est en droit de dire qu'il peut demander des arts et des choses pour pouvoir avoir des dédommagements pour l'utilisation frauduleuse de son caractère. Quoi. Que ça soit au découpage JPEG, etc. Mais après, c'est mouvant, quoi. Parce que entre les gens qui, les étudiants qui copient, les typos qui sont incrustés dans les PDF, etc., pour les réutiliser, mais il y a de plus en plus de robots maintenant qui fouillent les sites internet pour trouver les...